Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.
On va parler de cette conférence nationale du handicap qui avait lieu hier à l'Élysée. On va faire deux petits retours sur cette conférence nationale du handicap à partir de deux annonces faites par François Hollande. Tout à l'heure, on parlera d'éducation avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem, mais d'abord, une petite information qui est peut-être passée inaperçue. Le président de la République a indiqué qu'il voulait que chaque fois que le Parlement votait un texte de loi, il faudrait faire une version en français facile à comprendre de ce texte de loi. Alors justement, hier après-midi, on a reçu ici à Vivre FM Étienne Petit-Mangin, secrétaire général du comité interministériel du handicap. Il était interrogé par trois personnes handicapées intellectuelles qui, justement, travaille sur cette question du facile à comprendre. Freddy Philippe, Benoît Ruben, Didier Quettel sont des experts de cette méthode du facile à comprendre. Ils sont eux-mêmes déficients intellectuels et ils travaillent pour l'association des papillons blancs de Dunkerque, à Dunkerque, pour traduire des documents en facile à comprendre. Alors on a demandé d'abord à Benoît Ruben qu'est-ce que ça changeait pour lui, l'idée que le président de la République puisse dire eh bien maintenant les textes de loi deviendront en facile à lire et à comprendre. Échange entre des travailleurs handicapés d'un établissement et le secrétaire général du comité interministériel du handicap, Étienne Petit-Mangin, et c'est Benoît Ruben qui dit que pour lui, ça compte de rendre les textes de loi accessibles.
Parmi moi et d'autres, pour que l'on soit plus rassuré et que...
comprendre les textes de loi.
Mieux, un peu mieux quand même.
Un peu mieux. Alors, Étienne Petit-Mangin, est-ce qu'on peut rendre les textes de loi, hein, ça a été dit ce matin par le président de la République, on va rendre les textes de loi en français facile. Quand on commence ?
Oh, j'imagine très rapidement, mais j'ignore les délais précis. Juste vous dire... ce matin, quand le président de la République a fait cette annonce, j'étais à côté d'une haute autorité du paysage politique français qui m'a dit, je ne dirai pas son nom bien entendu, qui m'a dit « Oh, ça sera utile pour tout le monde et y compris pour moi. » Le français facile à lire et à comprendre, c'est utile pour tout le monde. On ne peut pas faire semblant. Y a beaucoup de discours, de langages, d'informations qui sont très difficilement compréhensibles pour tout le monde. Donc l'enjeu, ce n'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, c'est pour tout le monde. Voilà. Et je le dis très franchement, aussi pour moi-même. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et le français facile à lire et à comprendre est utile, y compris pour moi. Il faut le dire très très clairement, me semble-t-il.
Voilà. Alors, Freddy Philippe, vous êtes-vous confronté à des difficultés, par exemple, pour remplir un dossier qui vous concerne très directement, c'est des dossiers de la Maison départementale du handicap, de la MDPH. Oui. Rapprochez-vous du micro, racontez-nous ça, oui. Parce qu'il y a quelque chose là qui est très concret.
Oui, donc... dossier-là, il est assez compliqué à faire. Et parce que moi, j'ai des collègues qui ont fait une erreur sur le dossier. Ils ont perdu leur droit à cause de cette erreur parce que le dossier est trop compliqué à comprendre.
Est-ce qu'on peut imaginer, Étienne Petit-Mangin, que y compris les dossiers, et alors on imagine qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont concernées par cette question-là. Et ce que dit là à l'instant Freddy, c'est-à-dire que on perd des droits parce qu'on n'a pas compris.
Alors, plusieurs choses. Je reviens un instant à l'annonce du président de la République ce matin sur les lois. Je vais ensuite venir à cette question des dossiers administratifs. Sur les lois, il est quand même majeur que toute personne puisse les comprendre. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous venons d'envoyer à Genève le rapport de la France sur la Convention internationale du droit des personnes handicapées, qui dit très clairement, cette convention internationale que nous avons signée, la France, que toute personne, même handicapée, même gravement handicapé a ses droits de citoyen. Le droit international conteste même la notion de représentation, de tutelle. Elle pose le principe que les personnes doivent être accompagnées, mais que toutes les personnes, tout être humain, a son droit, et son droit d'être citoyen. Derrière ce qu'a annoncé le président de la République ce matin, c'est majeur, parce que ça veut dire que toute personne, même handicapée, même gravement handicapée, et citoyen, doit comprendre ce qui se passe, doit comprendre la loi. Pour moi, c'est ça l'enjeu de l'annonce de ce matin.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le facile à comprendre par Étienne Petit-Mangin, le secrétaire général du comité interministériel du handicap. C'est une vraie révolution parce que, en tout cas, si on y arrive et si ça se met en place et s'il y a une certaine visibilité, parce que effectivement, il y a beaucoup de citoyens qui aujourd'hui n'y comprennent plus rien. Tout devient trop complexe. On ne sait plus où sont les enjeux, où sont les lois et qu'est-ce qui concerne les citoyens. Et au point que un certain nombre de personnes, comme l'expliquait à l'instant Freddy Philippe, perdent leurs droits parce que ils n'ont pas compris quelle case il fallait cocher dans un dossier. On va trouver dans un instant la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, à propos de cette conférence nationale du handicap. C'était hier à l'Élysée.
Jusqu'à 8h30, l'invité de la rédaction sur Vivre FM.
Conférence nationale du handicap, c'était hier à l'Élysée. Et le président de la République a annoncé que les auxiliaires, les accompagnants des élèves handicapés à l'école devenaient désormais des agents de l'Éducation nationale. C'est la grosse information de cette journée d'hier. Najat Vallaud-Belkacem nous a accordé une interview à la ministre de l'Éducation nationale en exclusivité pour Vivre FM.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
Et ce qu'il faut retenir de ce qui a été annoncé peut-être ce matin par le président de la République, c'est une évolution dans le contrat des accompagnants scolaires. On fait un pas vers un accompagnement de qualité.
Oui, écoutez, pour vous dire les choses comme je les ressens, c'est une immense satisfaction pour moi. Ça fait des mois que je militais pour cette solution en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale pour une raison simple, c'est que je vois bien ce qui se passe dans les établissements scolaires. On peut se réjouir de ce que depuis quelques années, le nombre d'enfants en situation de handicap accueillis à l'école est de plus en plus nombreux. On peut se réjouir de ce que depuis quelques années, on a développé pour les accompagner à la fois des AESH et singulièrement depuis que nous sommes...
Les accompagnants pour les enfants en situation de handicap.
Voilà, les accompagnants pour les enfants en situation de handicap. Mais surtout, parce qu'il y a beaucoup d'enfants à accompagner, des contrats aidés. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans mon ministère, j'ai quelques 60 000 contrats aidés, en effet, qui sont là aux côtés des enfants, qui sont des personnes vraiment de qualité, mais donc le contrat est par définition précaire, qui arrive à terme au bout de 2 ans. Et donc ensuite, eh bien, l'école les perd, l'enfant les perd, et ça c'est terrible. Et c'est terrible pour l'enfant, c'est terrible pour les personnes concernées qui retombent dans la précarité, et c'est terrible aussi pour les équipes pédagogiques des établissements scolaires qui du coup ne peuvent pas compter sur la pérennité du dispositif pour bien travailler ensemble. Et donc, la nouvelle très ambitieuse qu'a annoncé le président de la République ce matin, c'est que nous allions transformer tous ces contrats aidés en un temps de 5 ans, nous nous donnons 5 ans pour le faire, les transformer en postes véritables d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et donc ça veut dire que, en fait, d'ici 5 ans, nous devrions avoir enfin réglé ce problème de la précarité des contrats aidés d'AVS qu'on trouve aujourd'hui dans les écoles.
Donc ça sera des vrais personnels de l'Éducation nationale.
Ce seront des vrais personnels pérennes, avec un CDI, avec donc une visibilité, avec une professionnalité, un diplôme, qu'il est possible d'obtenir soit par formation initiale, soit par formation continue, soit par VAE, et puis avec des établissements scolaires qui enfin savent qu'ils peuvent compter sur des gens qui sont là, qui font partie d'une certaine façon de l'équipe pédagogique au long cours. Et ça, c'est vraiment, ça va changer la donne. et se donner 5 ans pour le faire, ça peut paraître long pour certains, mais quand on sait d'où on partait, honnêtement, c'est assez rapide et c'est très ambitieux.
On peut même se dire pourquoi ça n'a pas été fait avant.
Ah oui, clairement. À moi, vous savez, en matière éducative, il y a beaucoup de questions comme celle-là que je me pose. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Je ne sais pas, mais l'important, c'est que ce soit fait maintenant. L'important, c'est qu'on aille toujours plus loin dans cette école inclusive qu'on appelle de nos voeux. Convaincue que je suis que l'école inclusive prépare la société inclusive.
L'invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30.
Il y a une formule qui a été utilisée ce matin. Quelqu'un a parlé de plan incliné pédagogique, ouais. C'est-à-dire des méthodes pédagogiques qui soient adaptées. Ça passe quand même par la formation des enseignants. On continue de dire que les enseignants ne sont pas suffisamment formés sur cette question du handicap.
Oui, j'ai beaucoup aimé cette expression de plan incliné pédagogique et je pense que je vais la réutiliser à gogo, si vous me le permettez, parce que je trouve qu'elle dit bien les choses. C'est que quand on accueille des enfants en situation de handicap dans nos écoles, il ne s'agit pas simplement d'assurer l'accessibilité physique de nos écoles et de dire qu'il y a un droit de ces enfants à venir à l'école. Non, il s'agit de regarder ensuite ce qui se passe à l'intérieur des écoles pour leur assurer une réussite à eux aussi. Et donc, un accompagnement personnalisé, un accompagnement adapté. Alors, ça dépend du niveau de handicap. Il y a des enfants qui auront besoin d'avoir un professionnel, un accompagnant des élèves en situation de handicap à leur côté tout le temps. Il y en a d'autres qui auront simplement besoin que l'enseignant dans la classe puisse avoir une pédagogie individualisée, personnalisée et donc adaptée.
Les enseignants disent qu'ils sont en difficulté, ils ont du mal à répondre, à mettre en place cette pédagogie en forme de plan incliné.
Mais ils ont raison de dire cela parce que vous vous rendez compte, le défi que ça représente pour les enseignants, c'est considérable. Je trouve que...
Mais qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites pour les aider justement?
Et donc, ce qu'il faut faire pour les aider, c'est tout simplement de la formation. Et vraiment, ayez à l'esprit que depuis que nous sommes revenus aux responsabilités, nous avons recréer une formation initiale de 2 ans pour les futurs enseignants. Ça n'est pas rien, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le tronc commun de la formation initiale de ces futurs enseignants, vous avez la partie handicap, adaptation, personnalisation des pédagogies, etc. Ensuite, vous avez la formation continue que nous développons de plus en plus. Je ne dis pas que tout est parfait à l'heure actuelle, je dis qu'il faut aller plus loin. Mais déjà, depuis 2014 en particulier, nous avons beaucoup développé les formations conjointes, c'est-à-dire où on a à la fois des enseignants, mais aussi des personnels médico-sociaux, des personnels paramédicaux, des AVS, pour avancer ensemble sur la compréhension de l'élève en situation de handicap et réponse à y apporter. Et puis enfin, la troisième évolution que nous apportons, c'est que nous avons évidemment des enseignants spécialisés qui interviennent, par exemple dans nos unités enfants autistes en maternelle ou dans nos ULIS. Eh bien, ces enseignants spécialisés, nous sommes en train de revoir leur formation et leur certification pour les renforcer encore et pour faire d'eux finalement des professionnels capables d'intervenir aussi bien dans le premier que dans le second degré, donc finalement nous donner plus de marge de manœuvre.
On a quelquefois tendance, on constate quelquefois que les enfants sont enfermés dans des cases, c'est-à-dire qu'il y a les enfants qui relèvent du décrochage et puis il y a les enfants qui relèvent de la difficulté scolaire et puis on enferme les gens et que finalement cette inclusion elle se fait toujours dans des cases et dans des structures qui sont quelquefois trop figées. Est-ce qu'on repère par exemple des enfants qui peuvent avoir un handicap de compréhension dans des quartier difficile?
Alors, votre question d'abord est vraiment très pertinente, si je peux me permettre, parce que c'est la raison pour laquelle moi je dis que l'école inclusive, c'est à la fois une nécessité, un devoir pour les pouvoirs publics, parce qu'il faut donner d'égales chances de réussite à tous les enfants de la République, tout simplement. Mais en plus de ça, c'est une chance, l'école inclusive. C'est une opportunité parce que cela nous permet, au sein de nos établissements scolaires, de mieux percevoir les différences entre enfants, de mieux nous adapter aux besoins différents des enfants. En fait, il n'y a pas d'enfants ordinaires et d'enfants non ordinaires. Il n'y a que des enfants différents.
Mais il y a toujours des cases.
Précisément, je pense que plus on formera les enseignants à percevoir justement la singularité du besoin de tel élève, parce qu'il aurait un trouble 10 quelconque, ou parce qu'il serait juste en décrochage, ou parce qu'il aurait un retard à l'allumage dans sa scolarité, eh bien, mieux on permettra à l'école, finalement, de faire réussir tous les enfants, parce qu'une fois qu'on a identifié ces troubles divers et variés, et qu'on apporte des réponses, des ressources adaptées. Par exemple, regardez dans le cadre du plan numérique que nous déployons dans les établissements scolaires. J'ai demandé à tous les éditeurs scolaires qui travaillent sur les ressources pédagogiques de nous préparer des ressources discipline par discipline où on soit capable de s'adapter aux troubles d'apprentissage des enfants. Donc ça, c'est quand même très important. Donc en ayant ces outils-là, la formation des enseignants et cette culture de l'adaptation aux besoins des élèves, donc de la bienveillance, je pense qu'on sera en capacité de faire réussir beaucoup plus d'élèves qu'aujourd'hui.
Une toute dernière question. Le parcours scolaire, c'est bien. La fin du parcours scolaire, quelquefois, c'est difficile. À quoi bon une école inclusive si on n'arrive pas à aller dans l'insertion, dans l'emploi ?
Alors ça, ça demande, pour faire réussir les élèves en situation de handicap aussi dans l'insertion professionnelle, ça demande un travail partenarial que nous conduisons en ce moment, notamment avec les établissements médico-sociaux, quand si besoin, mais aussi avec les branches professionnelles, pour faire en sorte de passer des conventions dans lesquelles les branches professionnelles s'engagent davantage à nos côtés, reconnaissant un certain nombre de compétences acquises par les élèves en question lors de leur scolarité, qu'ils aient eu des diplômes ou pas. On est en train de travailler sur un processus de reconnaissance de compétences, que les branches professionnelles s'engagent à accueillir un certain nombre de ces étudiants, de ces élèves en insertion professionnelle.
Merci Madame la Ministre.
Merci à vous.
Najat Vallaud-Belkacem hier à l'Élysée à l'issue de la Conférence nationale du handicap. Donnez-nous votre avis, réagissez par rapport à ces annonces faites par le Président de la République. Vous retrouvez l'intégralité du fil de la Conférence nationale du handicap avec les interventions, les principales interventions, tout ça, et même les photos. C'est sur le site internet de Vivre FM, www.vivrefm.com.